au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve David Gaillardon.
Faut-il que sur le front d'un profane adultère brille de la vertu le sublime caractère ? Nous connaissons tous ces vers de Racine extraits de la scène 2 de l'acte 4 de Phèdre et cette accusation terrible de Thésée à l'encontre de son fils Hippolyte. Connaissons-nous tous aujourd'hui le sens de l'adultère, ce terme qui fleure bon la pièce de boulevard et le roman bourgeois du XIXe siècle ? Pour le Larousse, l'adultère désigne toute relation sexuelle extra-conjugale, c'est-à-dire toute relation d'un des époux hors mariage. Corollaire de l'amour conjugal, l'adultère est sans doute l'un des matériaux auxquels les romanciers et les auteurs de théâtre ont le plus souvent recouru, Cocu de Molière et Cornu de Guitry, pour donner la réplique aux héroïnes, souvent insatisfaites ou divisées, du roman bourgeois du XIXe siècle, de la sensuelle Emma Bovary à la tragique Anna Karénine. Il manquait au sujet une approche historique, et c'est ce que vient de faire une jeune historienne, Agnès Walsh, maître de conférence à l'Université d'Arras. Agnès Walsh, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez déjà l'auteur de travaux sur l'évolution du sentiment amoureux et sur l'histoire du mariage. Vous publiez cette année une histoire de l'adultère chez Perrin, resituant l'objet de votre étude entre les XVIe et XIXe siècles, c'est-à-dire entre un temps où l'Église doit réaffirmer ses positions vis-à-vis du mariage à cause de la double poussée des thèses humanistes et du protestantisme, et celui où la laïcité triomphante fait du mariage une matière de droit bien plus qu'un contrat surnaturel. En choisissant de vous faire l'historienne de l'adultère, vous vous attaquez à un sujet qui était resté hors du champ d'étude de vos prédécesseurs. C'est un pari audacieux, mais on ne voit guère que deux sortes de sources pour écrire l'histoire, la littérature et les affaires judiciaires. Dans ce second cas, chaque affaire, et vous en présentez de nombreuses, chaque affaire est dramatique. Mais au-delà, ces procès en adultère font-ils école ? Est-ce qu'on peut vraiment distinguer des typologies d'adultère comme Durkheim le faisait pour le suicide ?
Ah oui, on peut effectivement distinguer des typologies d'adultère. Même, je vais dire, on peut d'abord et surtout distinguer des types de cocus. Et différents types de cocus mènent à différents types d'infidélité. Alors ça, c'est là où la littérature et les affaires judiciaires se rejoignent et se recoupent. Dans la littérature, les penseurs, les écrivains, etc., qui ont un petit peu d'humour, ont cherché, et depuis le XVIe siècle, à classer les hommes malheureux que leurs femmes trompent. Alors ça donne des classements par Rabelais, ça donne aussi un classement plus proche de nous que je trouve extrêmement savoureux, qui est celui de Charles Fourier, l'inventeur du phalanstère, donc un monsieur un petit peu, on va dire un petit peu étonnant dans son approche politique et qui critiquait beaucoup la bourgeoisie. Et il invente plus de 60 manière d'être cocu. Alors il y a le cocu présomptif, le cocu de bataille, il donne des noms très, très particuliers. Il y a le cocu en herbe, etc. Et à chaque fois, il explique pourquoi cet homme est ou sera cocu. Alors le cocu en herbe, c'est celui qui épouse une jeune fille qui croit absolument vierge et qui en fait ne l'est pas. Et donc en épousant une femme qui a déjà fauté, il est sûr qu'il va se mettre forcément, au cours de son mariage, dans une situation douloureuse. Alors, il y a le cocu aussi posthume, celui dont la femme accouche d'un enfant plus de 13 mois après sa mort. Voilà. Donc, forcément, il ne peut pas être le père, etc. Alors, en fait, c'est une critique de la société bourgeoise et du mariage bourgeois que fait là cet écrivain. Et beaucoup avant lui, beaucoup après lui, font de telles critiques. Donc finalement, le sujet permet d'approcher en fait l'organisation sociale, l'organisation du mariage, et finalement ce que Erasme, au XVIe siècle, appelait le fondement fondement de la société, parce que le mariage, c'est vraiment le fondement de la société. Donc, c'est apparemment un sujet qui est un sujet un peu futile, hein, mais en fait, il nous permet vraiment de nous éclairer sur ce qu'est vraiment cette société et comment elle évolue. Alors, effectivement, du coup, il y a plusieurs types d'infidélité. Alors ça, on le voit dans les procès. Ces procès qui mettent en scène toujours une femme, parce que c'est toujours la femme qui est la coupable. On pourra revenir peut-être là-dessus.
Oui, bien sûr.
Alors cette femme, elle peut être vraiment coupable parce qu'effectivement, ça peut être une femme un peu de mauvaise vie et qui a cherché à trouver un homme un petit peu à duper et qui l'a épousé en général par désir d'ascension sociale, hein, et qui finalement a trouvé une espèce de vache à lait, en tire le plus qu'elle peut, mais l'argent que lui donne son mari, en général, elle le redonne à son amant qui souvent était son souteneur. Donc il y a ce type de, je dirais, d'infidélité. Alors, il y a un autre type de femme, c'est la femme qui est mariée à un homme, et puis dans les premiers temps du mariage, ça va, et puis progressivement, la lassitude fait que, bon, bah, il n'y a plus tellement d'amour, et elle va se réfugier parce que sentimentalement, son mari ne la satisfait plus, et elle va voir ailleurs. Alors là, j'ai des cas quand même de femmes un petit peu désespérées qui vont chercher. Parce qu'elles ont une vraie demande affective, vont chercher à se consoler dans les bras d'un autre homme. Il y a d'autres femmes. Alors un autre cas, c'est une jeune fille qui est extrêmement sage, que ses parents ont apparemment très bien élevée et qui est extrêmement bridée dans son éducation. Et comme dans les temps plus reculés, pas au XXe siècle, hein, mais dans les temps 17e, 18e et encore au 19e siècle, il fallait se marier, c'était obligatoire. Elles attendent en fait de se marier pour pouvoir mener la vie qu'elles veulent. Donc avoir une désaventure, avoir pouvoir sortir, voire sortir seule le soir. Donc là, l'état de femme mariée leur permet ce que l'état de jeune fille ne leur permettait pas, parce qu'elles avaient toujours sur le dos leur mère, un chaperon, etc. Donc il y a un certain nombre de femmes qui se dévergondent par le mariage, et que c'est ainsi que le mariage les entraîne à être adultères et infidèles. Il y a d'autres types de femmes. Alors, il y a un autre type de femme, c'est la femme en fait tout à fait vertueuse que son mari accuse à tort. Et cette pauvre femme n'a rien fait de mal, mais dans le droit français, la femme qui est accusée et reconnue infidèle perd tous ses biens, hein, la dot enfin, qui est donnée au mari. Donc il y a parfois des maris peu scrupuleux qui ont envie de se refaire financièrement et qui accusent leur femme de manière tout à fait fausse, hein, et fallacieuse. Ce qui veut dire en passant que les rapports dans le ménage n'étaient pas très très bons, puisque enfin, c'est tout de même un petit peu curieux de voir un mari accuser sa propre femme alors que être cocu n'est pas très très bien vu, et que donc on pourrait penser que les hommes n'ont pas tellement envie de traîner leur femme en justice, parce qu'après tout, la risée va s'abattre sur eux.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, le mariage est une institution, il est pour Erasme un fondement de la société. L'enjeu de ces adultères, comme vous venez de l'évoquer brièvement, suivant les siècles, suivant les époques, il est plus ou moins dramatique. Il est parfois même extrêmement dramatique. Je pense que vous nous donnerez des exemples concrets, puisque vous en présentez de nombreux dans votre travail. Pour qu'il y ait adultère, il faut qu'il y ait eu mariage. Et dans l'Occident chrétien, au moins jusqu'au XVe et au XVIe siècle, le mariage est réputé indissoluble par l'Église catholique. Donc il y a une situation de blocage lorsque l'adultère est là. Que fait-on ?
On ne peut rien faire. La situation est effectivement tout à fait bloquée. Alors, que fait-on ? Il y a les cas où l'adultère est secret, ne sera jamais révélé, donc on fait comme si de rien n'était, le mari n'en sait rien ou la femme n'en sait rien, voilà. Il y a des cas où il est révélé, mais ce sont les familles, et dans le secret finalement familial, sans que l'historien puisse en savoir quelque chose, que les affaires sont résolues. Donc ces affaires sont résolues très certainement par des conventions chez le notaire. Par exemple, quand un mari soupçonne son épouse de lui être infidèle, et donc ce qui hypothèque la légitimité de l'enfant, par exemple, qu'elle peut attendre, eh bien le mari peut s'arranger devant notaire pour dire finalement cet enfant enfant, je ne le reconnais pas, ou je ne vais pas le reconnaître, ou je ne vais pas le privilégier du point de vue de l'héritage
successoral.
Voilà, successoral. Donc il y a ce genre, disons, de transaction. Mais ce qui est le plus spectaculaire, c'est lorsque l'on va en justice. Et j'ai travaillé sur une période donc du 16e à la fin du 19e siècle. Comme vous le disiez, c'est à la fois la période qui est vraiment la période du mariage chrétien, hein, son affirmation au temps de l'humanisme et de la réforme, et sa critique au temps de la laïcité à la fin du 19e siècle. Mais c'est aussi l'époque où s'applique en France un droit qui s'appelle la loi de l'authentique. Voilà. Alors, cette loi de l'authentique, elle n'existait pas au Moyen-Âge. Elle se met en place progressivement au moment où les tribunaux laïcs récupèrent absolument toutes les justices en France. Et ça se fait donc dans le courant du 15e et 16e siècle. C'est-à-dire que le droit matrimonial, qui était un droit plutôt aux mains de l'Église et aux mains des officialités, devient un droit royal et laïque. Donc les officialités ne gardent que les questions éventuellement de fiançailles rompues et puis des problèmes un petit peu annexes de grossesse, hors mariage, de choses comme ça. Mais il faut toujours de toute manière une décision d'un tribunal laïque, hein, pour entériner ce que l'official décide. Et puis les justices seigneuriales qui, en fait, et bien régler les problèmes courants dans la population et régler notamment ces problèmes de vie matrimoniale qui n'allaient pas très bien, et bien ces justices seigneuriales sont dépouillées des problèmes fondamentaux et des questions fondamentales comme la question du droit matrimonial. Au Moyen-Âge, le seigneur pouvait très bien taxer à l'amende la femme infidèle et son amant. Il y avait des coutumes, on les faisait courir tout nus, en chemise, hein, dans le village, et on les chassait plus ou moins à coups de pierre. Mais bon, il n'y a pas eu de femme vraiment pendue, hein, ni d'homme vraiment pendu.
Ni de lapidation.
Ni de lapidation, hein, mais enfin, c'était des cérémonies. Assez vexatoire, hein, il faut bien le dire. Je pense que les gens ne pouvaient plus vraiment vivre dans le village,
oui,
et étaient obligés de s'en aller.
C'est une forme de mort sociale.
C'est une mort sociale, ouais. Et c'est une forme aussi d'ostracisme. En fait, on bannit les gens. Alors, à partir du moment où l'État récupère pour lui vraiment tout, il fait travailler ses tribunaux royaux, c'est-à-dire en fait les parlements, hein, puisque c'est une question qui ressort, hein, de la justice parlementaire. Et les juristes ont trouvé un droit, la législation, pour l'infidélité. Alors, ils ont exhumé une loi qui aurait été une loi appliquée sous l'Empire romain, qu'ils appliquent authentiquement, d'où le nom d'authentique. Alors, l'authentique, c'est de dire que seule la femme est accusée, l'homme ne peut jamais être accusé d'adultère. La femme doit être accusée par son mari uniquement, hein. Personne d'autre ne peut l'accuser d'adultère. Et si elle est reconnue coupable, elle sera enfermée pour le reste de sa vie dans un couvent. Alors, en général, tondue, rasée, enfin bon, et elle prend l'habit des religieuses, mais elle ne devient pas religieuse, hein. Elle est simplement cloîtrée, soustraite au monde, et son mari peut éventuellement la reprendre dans un laps de temps de 2 ans.
C'est une relégation, en fait.
C'est une vraie relégation. Hein. C'est une vraie relégation, ce que faisaient les Romains, d'ailleurs. C'est aussi, ça s'assimile à une peine de prison. Hein. Je ne veux pas dire que les couvents sont des prisons, mais ça s'assimile quand même à cela. C'est dire que quand même la peine est lourde. Alors, ça ne s'est pas appliqué à énormément de cas. Hein. Je n'en ai pas retrouvé énormément. J'ai retrouvé à peu près 100-150 affaires d'adultère au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle qui sont passées devant les tribunaux. Hein. Mais pour aller devant les tribunaux, les maris doivent d'abord avoir le courage de dire qu'ils sont cocus, ce qui n'est déjà pas facile. Ensuite, ils doivent en avoir les moyens financiers, ce qui n'est pas non plus tout à fait aisé. Ils doivent avoir la connaissance, hein, de la justice et du tribunal. Donc, forcément, c'est assez intéressant, hein. Les milieux sociaux qui sont concernés par ces procès sont des milieux qui sont souvent des milieux de robe. En fait, qui va devant la justice ? Eh bien, les juges. Les avocats, les gens qui sont dans cette culture, en fait, judiciaire. Alors, il y a aussi de la noblesse, peut-être un petit peu moins que les personnes qui gravitent donc dans ce monde de la judicature, parce que ça dépend bien sûr exactement de la hiérarchie nobiliaire, mais en général, on arrive à régler ces problèmes en famille. C'est-à-dire que j'ai des cas où les femmes sont reléguées dans un couvent, mais on n'est pas passé par la justice.
Il y a un conseil de famille.
En gros, il y a un conseil de famille. Et on dit à la dame qui a fauté, bon, ce serait peut-être bien de vous retirer un petit peu pendant un certain temps dans une retraite. C'est ce que fait la princesse de Clèves à la fin du roman de Madame de Lafayette. Elle n'est pas du tout adultère, seulement en pensée avec un homme.
Elle a résisté au bon mot.
Elle a tout à fait résisté, mais elle se croit perdue tout de même. Et d'une certaine manière, pour résister aussi, elle va dans un couvent. Donc elle se retire du monde et elle refuse, alors que son mari est mort, de se remarier avec Nemours, ce qu'elle aurait pu faire.
Alors, avec ce glissement d'une justice religieuse à une justice un peu plus laïque, on pouvait penser que la justice laïque va être plus généreuse. Vous allez nous montrer qu'il n'en est rien. Il y a un glissement qui s'opère aussi. On avait l'impression que cette justice religieuse, elle veut réparer finalement. La famille, c'est quelque chose de très important. C'est une cellule très très importante aux yeux de l'Église. Il y a les enfants, enfin, il y a tout ce noyau. C'est pas le souci finalement des juges qui sont plus dans la sanction.
Oui, les juges sont plus dans la sanction. L'Église veut réparer. Elle veut surtout, et c'est assez intéressant quand on regarde les manuels de confesseurs et ce que les théologiens essaient d'expliquer aux confesseurs et aux prêtres qui auront à conseiller les laïcs, elle veut surtout qu'il n'y ait pas de vagues. En fait, il ne faut absolument jamais révéler son infidélité. Il faudrait que ces histoires restent totalement secrètes.
C'est un monde harmonieux. Il doit y avoir cette vision d'harmonie.
Oui, exactement. Il y a une vision
assez généreuse.
Elle est très généreuse parce qu'elle est extrêmement protectrice à l'égard des plus faibles. Ça peut paraître de l'hypocrisie parce que dire finalement on ne dit rien, on fait comme si de rien n'était, ça n'est pas non plus quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la bonne morale. Mais le but, c'est vraiment de protéger les plus faibles. Alors protéger qui en l'occurrence? Protéger l'enfant à naître, parce que en règle générale, les problèmes interviennent quand la femme est enceinte. Ce qui arrive assez fréquemment à cette époque. Donc, c'est sûr que là, dès qu'il y a un enfant qui pointe le bout de son nez, dont on n'est pas sûr, qui n'est pas bâtard, ça pose un problème. Parce que normalement, le père, le mari légitime, est réputé toujours père. Mais bien sûr, s'il a des forts soupçons que sa femme ait eu une conduite très mauvaise, il peut être extrêmement défavorable à cet enfant. Donc l'Église, ce qu'elle veut, tout simplement, c'est que cet enfant qui est un petit être fragile et qui n'a pas de quoi se défendre, soit finalement protégé. Donc ne rien dire, absoudre dans tous les cas, c'est très bien. Et puis aussi, elle est très 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 protectrice à l'égard des femmes. Parce que l'Église, très vite, peut-être pas au XVIe siècle, mais au XVIIe siècle, il y a tout un courant qui estime que les femmes sont là aussi fragiles, qu'elles sont soumises à leur père, à leur mari et finalement à la société, et qu'il n'y a que l'Église qui puisse les protéger. Et il y a même des conseils dans les manuels de confesseurs où on dit à une pénitente qui aurait dit « Oh là, j'ai fauté, j'ai trompé mon mari, je suis enceinte d'un enfant qui n'est pas de lui. Bon, » Mais on lui dit ne rien dire, parce que c'est sa vie qui est en jeu. Le mari peut très bien, a le droit, les tribunaux laïcs lui pardonneraient de tuer sa femme s'il savait qu'elle avait été infidèle. Et ça, l'Église dit non. Vous avez votre vie à protéger. Si vous allez avoir un enfant, vous avez cet enfant à protéger. Donc c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait un mal plus grand qui proviennent d'un mal. Voilà. Donc après tout, il y a la confession, le prêtre peut absoudre la pénitente, elle peut lui donner des pénitences justement, lui demander de ne pas retomber dans son péché. Là, je prends le vocabulaire qui est ce vocabulaire religieux. Et voilà, donc ça c'est extrêmement important. Alors que la société, effectivement, je dirais laïque, est beaucoup plus dure. Elle est plus dure parce que, d'abord, les juges sont tous des hommes. Et ils ont en face d'eux des accusées qui sont toutes des femmes. Donc il y a d'abord un problème qui est un problème de genre, comme disent les historiens de nos jours. Hein. C'est vrai que ces hommes sont confrontés à travers ces femmes dont on leur dit qu'elles ont été infidèles à l'infidélité potentielle de leurs propres épouses. Donc ils sont très très mal à l'aise. Ils le disent d'ailleurs souvent. Hein. Ils disent qu'ils sont assez mal à l'aise et qu'ils aimeraient bien ne pas avoir à trancher ces questions. D'ailleurs, il y a un juriste hein, du XVIIIe siècle qui explique vraiment qu'il faudrait absolument que la justice n'ait plus à s'occuper de ce genre d'affaires et que, vous le disiez tout à l'heure, il y ait des conseils de famille qui le fassent. Parce que, de toute façon, c'est insoluble. Un mari ne peut pas accuser sa femme parce que ça ne se fait pas. Quand la femme est déclarée coupable, eh bien, la vie conjugale n'existe plus. Donc le mari se trouve autant en pénitence que son épouse parce qu'il ne peut pas, puisqu'il n'y a pas de divorce, se remarier. S'ils ont eu des enfants, tout de même, vis-à-vis des enfants, avoir une femme en simili-prison, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à vivre. Donc la loi est totalement, enfin, n'est pas absurde, mais elle est difficile à mettre en œuvre. Et donc, un certain nombre de magistrats aimeraient bien, mais c'est plutôt au XVIIIe siècle, que cette loi soit abolie et qu'on trouve d'autres manières de régler ces problèmes. Et surtout que ça ne soit plus des affaires publiques.
Marquons une pause, si vous le voulez bien, avant de poursuivre notre exploration de l'histoire de l'adultère.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous retrouvons Agnès Walsh qui vient nous présenter l'histoire de l'adultère qu'elle a publiée chez Perrin, une histoire de l'adultère du XVIe au XIXe siècle. Et alors, une question que je me posais en vous écoutant tout à l'heure, c'est à propos, bien entendu, de cette société d'Ancien Régime et surtout de la société d'Ancien Régime qui précède celle des Lumières. On a l'aveu patent que la femme est une mineure civile, c'est une éternelle enfant, une empêchée, comme on disait autrefois à l'époque. Et je pense à ces affaires tragiques que vous évoquez, notamment à l'affaire Guibert de La Rochelle.
Oui, alors cette femme, c'est exactement la fin du XVIe siècle. Hein. Oui, tout début XVIIe siècle. Et alors, elle épouse un homme en lui apportant beaucoup de choses en dot, hein, parce qu'en fait, c'est elle qui a la fortune. Et ils sont donc à La Rochelle et ils achètent, enfin, le mari achète, grâce à la dot tenue par le père de cette femme, des marais salants. C'est extrêmement lucratif. Donc ça va, ça marche très très bien, l'affaire apparemment prospère. Et puis, pour une raison que les documents n'indiquent pas, ils vont un jour à Brouage, je pense aussi parce que l'homme, c'est son métier lui impose donc d'aller s'installer à Brouage. Et alors, le source nous dit, c'est un minuscule bourg de garnison. Donc,
changement de vie sociale, on quitte La Rochelle.
Rochelle, voilà.
Pour un port de mer, si je puis dire.
Oui, un tout petit port de mer, ville de garnison. Et alors, bien sûr, ça a déjà très, très mauvaise réputation, vous savez, les villes de garnison. Donc, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais un beau jour, cet homme accuse sa femme d'adultère. Alors qu'ils sont mariés depuis 20 ans, qu'ils ont un fils qui a 20 ans. Enfin, c'est une assez curieuse histoire, mais très certainement, effectivement, le changement social fait que l'épouse ne se sent pas très à l'aise dans la nouvelle vie que son mari lui offre, ou tout simplement, le mari est en train de chuter socialement, hein, et ne trouve que cette solution pour essayer de renflouer ses finances.
C'est ce que vous sous-entendez, d'ailleurs.
C'est ce que je sous-entends. C'est ce que je sous-entends au vu des documents que j'ai eus. Maintenant, bon, peut-être que l'histoire est différente, mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'en fait, c'est un mauvais homme d'affaires. Il est arrivait très très mal à gérer tous ces marais salants, et puis il avait pris aussi des fermes sur les impôts du sel du roi. Donc il a très très mal géré tout ça et se retrouve finalement en faillite. Et donc ce qu'il souhaite tout simplement, c'est pouvoir payer ses créanciers en récupérant, enfin en ayant vraiment la dot de sa femme. C'est-à-dire que jusqu'alors, il gérait les affaires de sa femme mais pour sa femme, tandis que si celle-ci, qui s'appelle Perrette, c'est pas Perrette et le potolé, mais bon, c'est Perrette. Si celle-ci était accusée d'adultère, la dot rentrerait définitivement dans la fortune du mari. Voilà. Alors il l'accuse, elle est effectivement reconnue adultère et elle est en prison. Bizarrement, on la met en prison, on ne la met pas dans un couvent. Alors La Rochelle est protestante, donc je suppose qu'ils n'ont pas trouvé de couvent dans la région et que donc on l'a mise en prison. Elle reste en prison jusqu'au jour où le mari ne paie plus la pension. Et quand il ne paie plus, les geôliers décident de relâcher l'épouse qui repart vivre de son côté. Et progressivement, on apprend, toujours à travers d'autres documents judiciaires, qu'apparemment, elle n'était effectivement pas adultère, que les juges qui l'ont jugée ont été peut-être un petit peu trop rapides et que, en fait, le mari était poursuivi par des créanciers qui voulaient absolument essayer d'avoir un petit peu d'argent à lui.
D'où votre interprétation ?
D'où mon interprétation, voilà. D'où mon interprétation. Et alors, c'est assez intéressant. Je peux peut-être sauter au 19e siècle parce qu'on n'a pas parlé de la peine qui était infligée à la femme. Au 19e siècle, c'est le code Napoléon qui est passé par là. Eh bien, écoutez, ça revient pratiquement au même que l'authentique, puisque seule la femme peut être accusée, le mari ne peut pas l'être, sauf s'il a tenu sa concubine au domicile conjugal. Ça veut dire, en fait, s'il a des habitudes avec une femme, mais que sa femme soit vraiment sa
bafouée,
oui, enfin, et que cette femme soit une concubine. C'est-à-dire que, véritablement, il y a un ménage à trois dans la maison, ce qui est quand même relativement rare, puisque les messieurs ont plutôt des garçonnières, donc c'est quand même un petit peu difficile. Donc, il n'y a que la femme qui soit poursuivie, et elle risque la prison. Alors, ce n'est pas la prison à vie, c'est la prison... Alors là, pour le coup, c'est de 1 mois à 2 ans.
Voilà. Alors, nous reviendrons sur cette justice du 19e siècle tout à l'heure. Il faut quand même s'attarder un peu sur le 17e siècle, parce que l'adultère, c'est la grande affaire du 17e siècle. Et on pense à l'adultère royal. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire dans cette monarchie catholique. C'est l'exemple donné par le souverain lui-même et par Louis XIV. On avait l'habitude de roi à favorite ou à maîtresse, le ver galant. Et chez les Bourbons, c'est une tradition. C'était même plutôt bien porté, je dirais. Mais alors, il se passe quelque chose à la cour de Versailles qui devient très différent.
Oui, alors justement, j'étais extrêmement intéressée par la manière dont Louis XIV utilise le système des maîtresses et donc sa propre infidélité à des fins politiques. Avec Henri IV, c'était purement, je dirais, instinctif. C'est un homme, c'est plutôt un guerrier. C'est un homme qui est dans l'instinct, qui est dans le, il est roi, donc bon, il peut se permettre d'avoir des maîtresses. C'est comme ça qu'on le.
Puis les récits de ses contemporains, de Brantôme à Talmant des Réaux, montrent que la réception de ces
est plutôt favorable. Plutôt favorable. Cela dit, quand la maîtresse prend presque la place de la reine. Mais enfin, bon, lui, le problème, c'est qu'en plus, il y a eu un moment donné, il n'y avait pas de reine. Enfin, c'est un peu complexe. Mais disons qu'effectivement, les contemporains sont plutôt à la recherche d'un roi dont les exploits vigoureux sont les bienvenus. Alors, ça reste effectivement la norme pendant tout le XVIIe siècle, mais se pose le problème de l'Église et de la morale, et qui est extrêmement fort, parce que, bon, je ne veux pas dire que Henri IV n'avait pas de morale, mais ensuite, tout de même, c'est la contre-réforme qui balaye vraiment, la France au XVIIe siècle.
Alors, la grande affaire du XVIIe siècle en matière d'adultère, c'est l'adultère royal. Et alors là, on a un exemple qui est un contre-exemple, c'est au sommet de l'État. C'est Louis XIV lui-même.
Oui, alors Louis XIV a ce trait, je dirais, de génie d'arriver à faire de ses adultères successifs une véritable politique de gouvernement. Et alors ça, c'est extrêmement habile. Bon, il a son tempérament, c'est le tempérament des Bourbons. Bon, son grand-père, était Henri IV, était déjà très réputé pour la chose. Et Louis XIV, bon, son père, c'est différent, mais enfin, Louis XIV, véritablement, a ce tempérament. Alors, se posent là deux problèmes. D'abord, le problème d'une France qui est tout à fait plongée à ce moment-là dans la contre-réforme et qui est extrêmement morale. N'oublions pas que la mère, c'est une Espagnole jusqu'au bout des ongles, qu'elle a été élevée dans une rigueur morale extrême et qu'elle a éduqué son fils. Donc se posent des problèmes de conscience. Alors ces problèmes de conscience, il va arriver à les résoudre périodiquement par le recours à la confession. Et c'est vrai que parfois, il y a eu, au cours de sa vie, des moments où il s'est séparé de sa maîtresse. Il y a eu une fois comme ça avec Madame de Montespan. Ils se sont séparés et puis en fait, ils ont repris leurs habitudes.
Des brouilleries, des petites brouilleries.
Voilà, il y a des brouilleries, mais qui sont des brouilleries, enfin, vraiment, c'est en général avant Pâques, c'est pour pouvoir faire ses Pâques. Enfin. Et il y a très certainement chez Louis XIV...
Vous y voyez la trace du confesseur.
Oui, oui. Et il y a chez Louis XIV véritablement une difficulté, je dirais, quand même intérieure. Hein. Bon, mais malgré tout, il est le roi. Et il a la chance d'être entouré de femmes assez exceptionnelles. Et il utilise donc ses maîtresses, dont il ne peut vraiment se passer, à des fins politiques parce que la maîtresse royale lui permet de faire alliance avec sa noblesse. Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre ce qu'on a appelé, ce que les historiens ont appelé la mise au pas du royaume. C'est-à-dire que c'est vrai que durant tout le premier XVIIe siècle, il y a eu quand même beaucoup de conflits entre la monarchie et les grands nobles. Vous vous rappelez les exécutions, la fronde, il y a eu des exécutions de nobles qui ont été très insolents et qui ont voulu se révolter. Il y a eu la fronde, etc. Donc il fallait arriver à trouver des alliances. Alors il y a eu le système de faire venir toute sa noblesse à la cour et de la faire un peu parader. On a dit beaucoup qu'il avait domestiqué sa noblesse en les faisant venir à Versailles. Puis il y a une autre chose, c'est qu'il a distingué parmi ces grandes dames de l'aristocratie des femmes pour lesquelles il avait une attirance ou moins d'attirance. Il en a fait les maîtresses officielles. Et c'est les familles d'où provenaient ces femmes étaient extrêmement flattées. Être la maîtresse du roi, c'était vraiment quelque chose de très extraordinaire.
Enfin, visiblement, M. de Montespan n'est pas très heureux d'être cornu. Vous racontez les anecdotes
que
Jean Tellet a un peu développées dans son roman l'an dernier.
Oui. Alors, Françoise de Montespan, bon, sa famille d'origine était absolument ravie. Hein. Et elle-même était donc mariée à M. de Montespan.
Elle résiste au début.
Et elle résiste de toute bonne foi parce qu'en fait, ce couple était un couple amoureux, mais lui avait beaucoup de difficultés à faire son chemin, en fait, hein, et à avoir une situation qui soit une situation qui le satisfasse. Il voulait aller à la guerre, mais c'était une période de paix. Enfin bon, il était très gêné, je dirais, du point de vue professionnel. Et sa femme avait été demoiselle d'honneur de la reine, comme bon, c'était très bien. Et quand Françoise a vu que le roi commençait à tourner autour d'elle, elle a appelé au secours son mari en disant « Il faut absolument venir me chercher, moi je ne peux pas rester, il va se passer des choses. » Mais lui ne comprenait pas très bien. Et puis c'est quand il s'est aperçu que sa femme était enceinte alors qu'il n'avait pas vu sa femme depuis plus d'un an, que là il a compris son malheur et qu'il a compris vraiment que ça n'allait pas. Mais le mal était fait, il ne pouvait plus revenir en arrière, il ne pouvait plus enlever sa femme au roi. Alors il a été extrêmement même violent. Il a été étonnant parce qu'il a attaqué le roi de façon symbolique. Un jour, il est arrivé dans la cour de Versailles en grand carrosse, tendu de noir, et il s'est présenté de roi comme s'il était veuf. Il avait organisé l'enterrement de sa femme, un enterrement fictif à la campagne, et il disait qu'il était veuf. Alors cela dit, il a fait un testament, et ça vraiment, si des auditeurs lisent mon livre, qu'ils aillent voir ce testament qui est une merveille de, je dirais, d'intelligence et de hauteur de vue. Alors c'est très très drôle, il rédige un testament qui est un faux testament, où et c'est très amusant parce qu'il dit que sa femme peut garder le portrait du roi, mais que quand il sera mort, il aimerait bien que sa femme devienne la supérieure d'un refuge de pénitente, mais il lui pardonne quand même. Et à la fin de sa vie, il se réconciliera avec elle, même si il ne la reverra plus jamais.
Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a une espèce d'inversion qui va se produire un siècle plus tard avec l'adultère supposé de Marie-Antoinette, les affaires du cardinal de Rohan ou de Fersen, et qui vont elles aussi ébranler le trône d'une certaine manière.
Oui, alors Marie-Antoinette est victime en fait du XVIIIe siècle. Elle est victime, je dirais même, de Louis XV et pas victime de la Révolution. Enfin, bien sûr, elle est victime de la Révolution, mais elle est surtout victime de l'évolution, on va dire, de la sexualité royale depuis la mort de Louis XIV. Avec Louis XIV, les choses étaient restées, d'une certaine manière, relativement correctes. Bon, il y avait un système officiel, bon, qui était bien sûr pas moral, mais c'était un système officiel qui fonctionnait relativement bien. Mais Louis XV, lui, abandonne ce système. Il n'abandonne pas les maîtresses, mais les maîtresses, il les prend progressivement.
Dans le ruisseau.
Ça finit avec Jeanne Bécu, qui est vraiment une prostituée. Hein, c'est une prostituée, c'est même pas une prostituée de luxe, hein, c'est une prostituée. Et ça, la noblesse ne lui pardonnera jamais. Hein. Que le roi ait des maîtresses, pourquoi pas.
Il gâche le métier, le métier de favorite.
Vous avez raison, il gâche le métier de favorite. Parce que ça n'est pas possible, effectivement. Donc là, il y a vraiment... Louis XV a été vraiment l'artisan de la désacralisation de la monarchie. On le voit dans d'autres domaines, mais dans ce domaine de la vie privée, très certainement. Et la pauvre Marie-Antoinette, elle ne fait que recevoir ce qui s'est passé 20 ou 30 ans avant elle, et cette société qui ne croit plus en son roi, qui ne croit plus en un roi sacré, qui pense que le roi se dévergonde avec n'importe qui n'est plus capable donc de faire alliance avec sa noblesse, et bien ce roi n'est plus capable de régner. Et donc forcément, la reine est une femme mauvaise. Qu'elle ait une liaison avec Fersen, moi j'en doute particulièrement.
Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de liaison supposée. Nous marquons une petite pause, si vous voulez bien, Agnès, avant de revenir à cette histoire de l'adultère.
Installez-vous à la table de Canal Académie. Découvrez nos émissions en compagnie d'Hervé Tiss avec sa cuisine moléculaire. Pierre Feillet vous livre 5 scénarios possibles pour votre assiette en 2030. Jean-Marie Bourg pèse le pour et le contre des oméga 3. Et Robert Anton vous aide à y voir plus clair sur des compléments alimentaires. Sans oublier la chronique gastronomique de Jean Vito. Des émissions en libre écoute et téléchargement sur Canal Académie.
Nous retrouvons notre histoire de l'adultère, nous progressons chronologiquement et nous nous approchons d'un moment qui pourrait paraître un moment charnière en matière d'adultère. On se demandera si finalement les résultats sont à hauteur des espérances, et c'est vous qui allez nous le dire, Agnès Walsh. Avec la Révolution, on découvre grâce à vous que le divorce n'est absolument pas la priorité des doctrinaires.
Ah non, absolument pas. Finalement, le divorce est effectivement instauré, mais vraiment le dernier jour de la dernière séance, juste avant la proclamation de la République.
Le 20 septembre 1792, voilà. Une loi votée à la sauvette quasiment.
Mais tout à fait. Alors il y a eu pourtant, dans les années qui ont précédé la Révolution, quand même un certain nombre de penseurs, d'avocats, d'écrivains qui ont milité en faveur du divorce. Mais dans l'effervescence révolutionnaire, c'était quand même pas le sujet prioritaire.
Et puis Rousseau, qui est un des pères fondateurs, enfin du moins de l'esprit des Lumières et qui a nourri en tout cas la génération de la Révolution, il est contre le divorce.
Oui, lui est contre. Alors il y a dans ses philosophes, il y a ceux qui sont pour, hein, Voltaire par exemple, mais il est pour vraiment par anticléricalisme. Et puis il y a effectivement Rousseau qui est contre, mais lui, Rousseau, c'est finalement un bourgeois assez conservateur. Donc c'est pas étonnant aussi que ces révolutionnaires qui vont devenir finalement petits bourgeois ne soient pas forcément très favorables au divorce. Alors le divorce intéresse l'adultère parce qu'on pourrait penser qu'il met enfin un terme aux situations invivables. C'est-à-dire une femme ou un mari qui aurait des liaisons à droite et à gauche, ne s'entendant plus, pourraient refaire leur vie. C'est d'ailleurs ce que dit Voltaire, c'est finalement comment faire baisser le taux d'infidélité. Il faut instaurer le divorce. Il n'y a que cette solution parce que le divorce mettra fin à des situations invivables. Et en plus, il aura un effet, je dirais, qui est insoupçonné. Les gens ayant la possibilité de rompre leur union, pensent-ils, je ne sais pas si c'est vrai, mettront leur point d'honneur à ne pas la rompre. Et donc feront des efforts, sachant que cette union n'est pas indissoluble. Et feront des efforts. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité, mais toujours est-il que ce qui est surtout important, c'est que va de pair avec cette loi sur le divorce, la fin des poursuites.
La fin de l'authentique.
La fin de l'authentique, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de législation concernant la fidélité durant tout le temps de la Révolution. Enfin, c'est un peu schématique, mais c'est ça. Hein, durant tout le temps de la Révolution. Donc voilà, on dit simplement, vous avez des problèmes d'ordre privé, maintenant il y a une autre solution, c'est le divorce. Donc finalement, quelle que soit la cause de vos problèmes, et l'infidélité peut en être une, vous avez de quoi résoudre ces difficultés.
Puis alors, coup de barre à droite, si j'ose dire, avec le Code civil de Napoléon, qui vient en quelque sorte préciser, mais aussi surtout restreindre, le cadre du divorce, punissant toujours l'adultère lorsqu'il est le fait de l'épouse.
Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on en revient à une loi qui se rapproche finalement de l'authentique, sauf qu'il n'y a plus de relégation dans un couvent, mais une peine de prison pour un temps, hein, qui n'excède pas 2 années, et avec assortie d'amende, hein, d'amende aussi que doit payer le séducteur. Hein, donc l'amant, là, est aussi un petit peu concerné par la chose, mais il faut dire, et c'est aussi intéressant, c'est que tous les législateurs, hein, du temps de Napoléon se sont beaucoup basés sur le droit du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a eu énormément de réflexions pour essayer de moderniser le droit. Là, en l'occurrence, ils se sont beaucoup référés à ces réflexions et aux juristes de la fin du XVIIIe siècle qui eux-mêmes avaient réfléchi à une réorganisation de la justice. Hein, parce que vraiment, la fin du XVIIIe siècle est un vrai laboratoire intellectuel, hein, de réforme.
On est en pleine époque du néoclassicisme et je me suis demandé si les juristes ne s'étaient pas eux aussi penchés sur le droit romain, chez les grands ancêtres, enfin chez Cicéron et les autres, et qu'on avait puisé à nouveau dans la société romaine un peu phallocratique.
Hein, oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Bien sûr, oui, tout à fait. Hein. Ça se voit aussi notamment concernant le mari. Alors, le mari peut-il ou non tuer sa femme qui surprend en adultère et tuer l'amant? Mais là, c'est tout à fait la loi romaine. Hein. Donc, il le peut sous le coup de la colère, etc. Donc, c'est effectivement, ils reprennent effectivement tout à fait la loi romaine. Et puis, avec la Restauration, en 1816, la loi Bonald supprime le divorce. Et donc, on revient, hein, durant tout le 19e siècle, donc jusqu'en 1884, à la situation qui était presque la situation d'Ancien Régime, hein, avec poursuite de la femme infidèle et impossibilité de divorcer.
Oui, cette loi Bonald est tout à fait importante parce que nous sommes en 1816, les Bourbons reviennent et alors il y a ce qu'on a souvent dit à l'époque, il s'agit de toute une ancienne cour qui est partie, qui n'a rien oublié du Versailles de Louis XVI, mais qui n'a rien appris durant l'émigration. Et donc c'est le grand verrou sur le divorce pour une grande partie du 19e siècle.
Oui, et puis c'est quand même la pression la catholique. Hein. Il faut donner des gages au clergé catholique. Il faut absolument vérifier que le concordat va bien s'appliquer. Enfin, donc là, il y a vraiment effectivement la remise en ordre d'une société qui ressemble beaucoup à la société de la fin d'Ancien Régime. Mais alors, va beaucoup plus fonctionner ce qu'on appelle les séparations de corps. Hein, la séparation de corps existait toujours. Elle n'était pas vraiment effective. La séparation de corps sous l'Ancien Régime, c'était plutôt une séparation de biens en réalité. Quand la femme voyait que son mari commençait à mal gérer ses affaires, souvent elle demandait une séparation de biens, parfois de corps.
C'était le cas des officiers de marine d'ailleurs.
Oui. Oui, c'est vrai, oui, oui, tout à fait. Parce que, voilà, c'était de mettre à l'abri la fortune pour les enfants, hein, enfin, la fortune de l'un par rapport à l'autre. Et alors là, la séparation de corps joue un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'affaires de séparation de corps, de biens et de corps, qui ne remplacent pas le divorce, mais qui sont offerts dans des situations effectivement invivables, mais avec impossibilité de se remarier. Alors, j'ajouterais qu'en fait, la loi sur le divorce de 1884, bon, on en pense ce que l'on veut, hein, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir de cette loi, pas tout de suite, pas immédiatement, mais dans les années qui suivent et jusqu'au début du XXe siècle, cela va inciter les magistrats à ne plus condamner à peine de prison les femmes. C'est-à-dire que l'idée émerge que la femme, finalement, eh bien, elle s'appartient à elle-même. Elle n'est plus la propriété d'un mari. Hein, puisqu'on peut divorcer, elle-même peut demander le divorce. Donc, elle devient un petit peu autonome. Elle a un peu grandi avec cette loi. Et donc, les juges trouveraient quand même assez déplacé que pour infidélité, on condamne encore à de la prison ferme les épouses. Alors bien sûr, ça dépend des milieux sociaux. Ça se fait progressivement, mais on peut dire quand même que...
Après 1890,
moi, j'ai plus tellement retrouvé d'affaires où les femmes étaient condamnées à de la prison. Il reste des amendes, des choses comme ça, mais moins la prison.
Et alors pourtant, il faudra attendre 1975 pour que le paragraphe en question soit supprimé lors de la refonte du Code civil. L'adultère aujourd'hui semble enfin devenu une affaire privée.
Peut-être. Je pense que c'est devenu une affaire privée, effectivement. Mais le paradoxe, c'est que nous sommes censés nous marier par amour, mais je crois que l'adultère existe toujours. On ne peut pas le quantifier, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, mais toujours est-il que c'est toujours, on va dire, une plaie du mariage.
Eh bien, nous glisserons à voile pudique sur cet adultère contemporain. Je vous remercie beaucoup, Agnès Walsh, d'être venue nous présenter votre histoire de l'adultère du XVIe au XIXe siècle, qui vient de paraître chez Perrin, qui, je dois le dire, est un ouvrage extrêmement agréable à lire parce que agrémenté de très nombreux exemples et qui rend la lecture extrêmement vivante. Merci beaucoup.
Merci à vous.